de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Bonjour, bienvenue sur Présence, Florian Ose pour vous accompagner avec vos rendez-vous habituels pour l'heure dans 10 minutes. L'interview du jour avec Isabelle face à l'urgence sanitaire, comment les cliniques font pour s'organiser. Isabelle sera avec Dr Madeleine Croutebeil à ne pas louper. Votre sélection télé de ce soir avec Emmanuel Hernandez, c'est dans 20 minutes. En deuxième partie d'heure, nous irons faire le tour des diocèses à Cahors, à côté du studio de là où je vous parle en ce moment. En fin d'heure, votre chronique sur les chemins de Saint-Jacques. Mais juste avant, l'essentiel de l'actualité dans votre région, c'est avec Luc Vidal-Giraud.
C'est une première en Europe et on la doit aux équipes du SAMU 31, le SAMU de Haute-Garonne. Leur équipe a installé hier à Bayonne un hôpital mobile pour prendre en charge les malades de la Covid-19. Transportable par un seul camion, le conteneur se transforme en 40 minutes en 5 box, pouvant accueillir 18 patients graves en même temps ou 20 patients dans un état plus léger. Plusieurs syndicats d'enseignants appellent à la grève sanitaire aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées. En cause, le protocole sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus, considéré comme, je cite, mal préparé, tardif ou flou. Deux des principaux syndicats d'éducation nationale, le SGEN, CFDT et l'UNSA, n'ont pas rejoint cet appel. Le conseil départemental du Gers innove et vient de mettre en place un conseil départemental d'analyse et de vigilance Covid. Son objectif est de mettre en œuvre des solutions adaptées au département afin de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale qui découle de la pandémie. Originalité du dispositif, 5 citoyens volontaires seront tirés au sort pour siéger dans ce conseil. Le tribunal administratif de Toulouse prononce hier la suspension de l'arrêté municipal pris par la maire de Montauban, Brigitte Barège, le 30 octobre dernier, qui autorisait la réouverture des commerces non alimentaires de la ville et ce, contre la décision gouvernementale. Changement de statut pour le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Il va devenir un sanctuaire national. La décision a été annoncée ce week-end lors de l'Assemblée plénière des évêques de France. La Haute-Garonne, mauvais élève d'Occitanie en matière de tri sélectif. En 2019, chaque habitant de la région a trié en moyenne 71,6 kg d'emballages ménagers et de papier. Ce chiffre tombe à 60 kg en Haute-Garonne. Gros trou noir pour le transport aérien à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il enregistre une baisse de fréquentation de 70% par rapport à l'an dernier. À elle seule, la liaison Toulouse-Orly, fortement touchée par l'absence de la navette Air France durant la majeure partie de la période, enregistre un recul de 75%. Et puis la circulation des trains est fortement perturbée depuis ce mardi matin entre Tarbes et Toulouse en raison d'une panne électrique en gare de Muret. La direction régionale de la SNCF annonce des retards et des suppressions de trains à prévoir.
Merci Luc, on vous retrouve dans une demi-heure pour un autre point sur l'actualité en Occitanie.
La météo.
Pour cet après-midi, des éclaircies dans la plupart des départements. Là où il y aura de rares averses, ce sera dans le Lot et l'Aveyron. En moyenne, vous aurez 16 degrés. Demain matin, des gros nuages à côté de la cathédrale de Cahors et près de Montauban avec 10 degrés, 9 pour le Gers et 7 à l'aéroport de Tarbes et Lourdes. Pour l'après-midi, des rayons de soleil dans notre beau paysage d'Occitanie. 16 degrés dans le Lot à côté de la Cité de l'Espace à Toulouse et à Nougaro, 17 en Haute-Pyrénées.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Isabelle, vous recevez le docteur Madeleine Croutebeil, anesthésiste, réanimateur à la clinique Pasteur à Toulouse.
Face à l'urgence sanitaire, les hôpitaux publics et les cliniques privées ont-elles enterré la hache de guerre ? Ont-ils enterré la hache de guerre ? Quelle articulation en Occitanie entre le public et le privé dans la gestion des patients atteints de Covid-19 ? Ce sont ces questions que nous allons nous poser ce matin. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Madeleine Croutebeil. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous donner quelques minutes de votre temps qu'on imagine évidemment très précieux par les temps qui courent. Hein. Vous êtes anesthésiste, réanimateur à la clinique Pasteur. C'est, je crois, l'une des plus grosses cliniques de Toulouse avec comme spécialité la chirurgie cardiaque. Hein. C'est bien ça, docteur ?
Oui, tout à fait. La chirurgie cardiaque, tout ce qui est activité cardiologique.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de patients Covid vous avez actuellement hospitalisés dans cet établissement qui est donc la clinique Pasteur ?
Alors, actuellement sur la clinique, nous avons 5 patients hospitalisés dans une unité de réanimation, 6 patients hospitalisés dans une unité de surveillance continue, de soins intensifs, ce sont des patients un petit peu moins graves, et 8 patients hospitalisés dans des services de médecine, des patients sans forme grave de Covid. Et on a aussi une cinquantaine de patients hospitalisés dans notre service d'hospitalisation à domicile.
Tous ces patients que vous nous avez donnés dans le cadre du Covid-19, hein ?
C'est que des patients Covid, là, oui. Oui.
28, donc ça fait à peu près 70 patients qui sont concernés par la pathologie du Covid et qui sont actuellement dans votre établissement. Alors évidemment, cette question, docteur, elle vient en écho à la polémique qui a eu lieu, notamment pendant la première vague, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une polémique qui touche le public et le privé. Je vais la résumer grossièrement. Le public a accusé le privé de ne pas prendre sa part dans la gestion du Covid. Ça, c'était pendant la première vague. Le privé a, quant à lui, reporté d'une certaine manière la faute sur l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui aurait tardé à donner l'autorisation administrative. Alors d'abord, vous allez nous dire si les choses se sont réellement passées comme ça. Peut-être qu'il y a des choses à rectifier. Et puis comment et en quoi elles sont différentes aujourd'hui ?
Alors, les choses sont peut-être passées comme ça dans d'autres régions lors de la première vague. Pour nous, en Occitanie, ça n'a pas été le cas. L'ARS a d'emblée rassemblé les acteurs du privé et du public pour ce qui est des activités de soins critiques, donc de réanimation. Nous avons été réunis très tôt, c'était le 10 mars pour... si je me souviens bien, dernier. Et d'emblée, à l'issue de cette première réunion, nous avons décidé de gérer cette crise ensemble et avec une participation de tous les acteurs publics-privés dès le premier jour. L'ARS nous a soutenus dans cette démarche et, voilà. Et le dispositif donc, de coopération est toujours en place depuis le 1er mars.
Et je pense qu'on est
une des rares régions sûrement de France à avoir fonctionné comme ça. Sur la première vague. Je pense que pour la deuxième vague, il y a d'autres régions qui ont pris ce mode de fonctionnement.
Voilà, donc l'occasion d'un petit cocorico, hein, l'Occitanie moteur ouais. Et pilote sur cette belle coopération. Donc les images de cliniques ouais. Vides, les patients, les médecins désolés de n'avoir personne, c'était pas chez vous, pas en Occitanie en tout cas. Hein.
C'est ça, c'était pas chez nous.
Et alors, aujourd'hui, la coopération, donc vous nous dites, est en place, effective, comme ça a pu être le cas pendant la version 1, si je puis m'exprimer ainsi, du ouais. Covid. Toutes les cliniques privées accueillent aujourd'hui, je crois qu'il y en a une centaine sur la région, accueillent des patients Covid à tous les stades.
Alors, les cliniques privées sont toutes mobilisées. Celles qui ont des services de réanimation ou de soins de réanimation ont été mobilisées d'entrée depuis le départ. Et sur la deuxième vague, comme on assiste quand même à beaucoup d'hospitalisations hors soins critiques, l'ensemble des établissements privés se sont mobilisés pour admettre des patients Covid dans leurs établissements. Ceux qui n'ont pas de réanimation admettent des patients Covid en forme pas grave à une hospitalisation conventionnelle. Mais tous les établissements participent. Sur Grand Toulouse, toutes les cliniques font partie du dispositif. Et dans les départements aux alentours, c'est la même chose. Dans le Tarn et Garonne, toutes les cliniques participent.
Alors, le ministre de la Santé, Véran, hein, nous donne souvent ce chiffre de 5000 lits de réanimation passés avec beaucoup d'efforts à 9000 lits. Est-ce que dans son comptage sont comptabilisés les lits apportés par les cliniques privées ?
Je ne connais pas les chiffres exacts hein, mais de réa en France. Il me semble que oui, avec prudence, parce que je ne connais pas les chiffres de la France entière. On n'a pas d'accès comme ça aux mmh. chiffres de tous les départements. Voilà. Moi, je connais les chiffres pour notre région ex-Méditerranée.
Et alors, quels sont-ils pour la vôtre ? Quel est l'apport du privé ?
Alors, nous, en capacitaire sur ex-Midi-Pyrénées, il y a à peu près 300 lits de réanimation. Donc on est une région qui est quand même bien dotée. Et actuellement, nous sommes à 482 lits. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu plus de 180 lits qui ont été déployés en plus sur la région, en réa, dans les établissements. Pour l'Occitanie entière, il y a à peu près dans les 400-500 lits, on va dire, disponibles, établis.
Et alors, docteur Croutebail, hein, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes anesthésiste, réanimateur à la clinique Pasteur à Toulouse, et on fait un point ensemble sur la coopération publique-privée dans la gestion du Covid. Vous nous dites que dès la première vague et pour la deuxième, de la même manière, il y a une bonne coopération entre les deux. De quelle nature elle est, cette coopération? Est-ce que c'est une réquisition par l'État des lits du privé ou bien une démarche de solidarité spontanée?
Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'être réquisitionné hein, par l'État, par les préfets, ni par les ARS. Tous les établissements peuvent participer au dispositif s'ils le souhaitent et si on les fait participer au dispositif. Je crois que ça a été ça peut-être qui a freiné dans certaines régions, c'est que les établissements n'ont pas été sollicités. Mais ce n'est pas une réquisition ni un ordre, c'est juste leur demander de bien vouloir, s'ils sont d'accord pour participer. C'est juste une entente, en fait, hein, entre le public et le privé.
C'est sur la base du volontariat, j'entends. Hein.
Pardon ?
C'est sur la base du volontariat des cliniques privées. Hein.
Enfin, je pense que c'est ce qui s'est passé effectivement sur la première vague dans certaines régions. C'est que même si les cliniques étaient d'accord pour participer, on ne leur a pas demandé. Et le système public a pensé qu'il pouvait gérer tout à fait le problème sans la participation du privé. C'est une coopération, hein. Il n'y a pas besoin de réquisition.
Allez-y, je vous en prie.
Non, je disais que nous, ici, sur l'Occitanie, on a d'emblée décidé de travailler ensemble, donc de recenser les lits, de recenser les capacités de chacun. Et donc, dans les cliniques toulousaines, dans le Grand Toulouse, mais aussi sur les autres départements, et on a pris l'option, dès le départ, de répartir, en fait, les malades de Covid sur tous les services de réanimation, de façon à ce qu'il n'y ait aucune structure qui soit sous tension ou qui soit saturée.
Alors, on va y venir sur le moyen d'opérer. Juste un dernier mot, parce que si je vous pose la question des réquisitions, c'est parce que c'est d'un point de vue financier, et c'est souvent là-dessus que porte la mise en accusation du secteur privé, qui est parfois accusé de faire la course à l'acte. À l'heure des comptes, qui paiera la note? Puisqu'en fait, vous me dites si je me trompe, mais toute déprogrammation d'opération, pour vous, est synonyme de manque à gagner. Un patient, pour dire les choses simplement, un patient au Covid, ça ne vous rapporte rien.
Pas plus que notre. C'est-à-dire que si on diminue notre activité pour s'occuper des Covid, nous, les praticiens qui font de la réanimation, on a les patients, peu importe qu'ils soient Covid ou pas, on travaille avec ça, avec eux, et on vit de ça. Mais tous les praticiens, les chirurgiens qui déprogramment leurs interventions, eux, ils se retrouvent avec un manque à gagner, puisqu'on est payé que si on travaille.
Voilà. Et comment c'est vécu, ça, par les médecins ?
Très difficilement, ça a été difficile, surtout lors de la première vague, parce qu'il y a eu de grosses déprogrammations avec des chirurgiens, certaines spécialités qui ne se sont retrouvées à ne plus travailler du tout pendant 3 semaines, pendant un mois. Donc ça a été très difficile à accepter. Mais ils l'ont fait. Là, sur cette deuxième vague, on déprogramme moins. Parce qu'on a anticipé un peu, on a eu le temps de mettre en place des extensions de lits pour pouvoir continuer justement ces soins hors Covid. Bien sûr, des programmes entre 30 et 40% de l'activité sur toutes les spécialités pour qu'il y ait un effort collectif. Donc c'est bien sûr un manque à gagner pour ces spécialités, mais tout le monde est solidaire
et
tout le monde est solidaire, en tout cas dans notre établissement, tout le monde est solidaire et tout le monde participe à l'effort, parce que prendre en charge les Covid, c'est beaucoup de ressources matérielles et humaines, et donc il faut bien qu'on trouve ces ressources matérielles et humaines quelque part. Et c'est en déprogrammant les activités qu'on récupère justement ces ressources pour la prise en charge du Covid.
Et alors cette prise en charge, donc belle coopération, on insiste là-dessus parce que c'est pas si courant que ça entre le secteur public et le secteur privé, en tout cas pour l'Occitanie. Qui la pilote cette coopération? Est-ce que vous pouvez un petit peu rentrer dans le détail, dans le parcours du malade? Il arrive, j'imagine, par les urgences. Comment est-ce qu'il est ensuite orienté? Qui dispatche?
Alors, il y a une cellule territoriale de crise, de coordination de crise, pour les soins critiques, pour la réanimation, qui a été constituée donc au mois de mars, avec donc un représentant de l'ARS, des représentants administratifs, le directeur des hôpitaux de Toulouse et un directeur qui représente tous les établissements privés, et des médecins réanimateurs de l'hôpital et des réanimateurs on est trois médecins de réanimation des cliniques privées. Donc cette cellule recense les disponibilités dans tous les établissements. On est en relation avec tous les services de réa et de soins des privés ou publics de la région, de l'hémi-région. Et on a un groupe WhatsApp sur lequel tous les réanimateurs nous font un point chaque jour. Donc nous sommes au courant de toutes les capacités en temps réel sur tous les services. Ensuite, les patients sont la première vague, les patients arrivaient beaucoup en SAMU dans les établissements. Donc on pouvait réguler en aval, c'est-à-dire que le SAMU, on donnait ses capacités là-haut au SAMU, et le SAMU savait qu'il fallait aller à tel endroit parce qu'il y avait de la place aujourd'hui. Voilà. Là, c'est un peu différent parce que les patients arrivent moins par le SAMU, c'est plutôt des entrées qui arrivent. Les patients qui sont hospitalisés dans les établissements parce qu'ils ont des Covid non graves, ils arrivent beaucoup par les services d'urgence. Et ensuite, au cours de leur hospitalisation, ils se dégradent et ils sont transférés en réanimation. Mmh. Donc là, c'est plutôt un transfert interhospitalier d'un établissement à l'autre que l'on organise donc en fonction des capacités. Donc il y a des patients, quand un établissement est sous tension, ça a été un petit peu le cas de Rodez, par exemple, du stage de Rodez ces derniers jours, qui a donc transféré ses patients sur Albi, qui lui était moins en tension, avait des capacités. Et ça permet donc de ne jamais laisser un établissement en saturation, et de pouvoir gérer plus facilement et plus tranquillement, en tout cas pour tous, ses patients.
Et vous êtes sereine aujourd'hui?
Oui, le dispositif a bien marche très bien. Je suis sûre qu'on va y arriver parce que il y a vraiment une très bonne coordination. Tous les établissements sont rentrés dans le dispositif maintenant. Ça se passe très bien. On arrive à bien communiquer. Voilà, je crois que tout le monde est content de la façon dont c'est fait et on en tire tous les bénéfices. Et je pense que c'est important sur la motivation, l'engagement de tous les soignants. Et donc je suis plutôt
un dernier mot, docteur, même si j'aimerais bien terminer sur cette note positive. Est-ce que vous pensez que cette coopération inédite, hein, ce front commun face au Covid entre le secteur public et le secteur privé, est de nature à enterrer définitivement, en tout cas vous avez pris conscience des façons de travailler des uns et des autres, enterrer définitivement la hache de guerre entre les deux secteurs?
Ah oui, je crois. En tout cas pour nous, voilà, on s'est découvert, hein, c'est pour certains, parce qu'on se connaissait pas. Et voilà, c'est 9 mois de travail ensemble, je pense, vont avoir des effets bénéfiques pour le reste de la vie, hors Covid.
Eh ben, un grand merci, voilà, un effet positif, s'il en est, du Covid-19, la bonne coopération entre les différents services. Merci beaucoup, docteur Madeleine Croutebail. Je rappelle que vous êtes anesthésiste, réanimateur, très engagé donc dans la lutte contre le Covid à la clinique Pasteur de Toulouse. Merci à vous.
Merci à vous.
Dans 4 minutes, vous allez savoir qu'est-ce qu'il y a de bien ce soir à la télé avec, pour les enfants, des petits bonhommes jaunes qui sont trop mignons et qui recherchent un maître à servir. Juste avant, Florent Pagny, Savoir aimer dans l'Occitanie, sur votre radio chrétienne.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Savoir souffrir, en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir, se relever comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Apprendre à rêver. Fermant les yeux et savoir donner. Donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer, s'en aller.
Place du Capitole, 97.9.
Bonjour Emmanuel Hernandez, qu'allons-nous regarder ce soir à la télé?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Florian, ce soir on retient son souffle.
Ah ça c'est un reportage.
Et oui, ce soir sur France 5 à 20h50, nous embarquons au cœur du plus grand hôpital d'Europe, celui de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le combat contre l'épidémie de Covid-19 a mobilisé l'ensemble des personnels et à titre exceptionnel, une équipe de tournage a filmé en immersion pendant plusieurs semaines, jour et nuit, dans le service pneumologie, médecine intensive et réanimation médicale située dans le bâtiment Éole. À l'occasion de la crise sanitaire mondiale, comment l'hôpital public fonctionne-t-il et comment tient-il alors qu'il est déjà en difficulté?
N'oublions pas cependant de faire attention et une grosse pensée à nos hôpitaux et aux corps soignants qui font un travail remarquable.
C'est bien vrai, Florian. Vous savez ce que c'est des mignons ?
Le mignon, oui, c'est moi, mais à part ça, non, je sais pas du tout.
Non, si, vous savez, des petits bonhommes jaunes qui adorent les bananes, ça vous dit vraiment rien ?
Ah non, pas du tout.
Eh bien, vous allez les découvrir ce soir sur France 4 à 21h dans ce film d'animation que vos enfants ou petits-enfants ont adoré ou vont adorer. Ce film explique depuis les origines de la vie sur Terre, les mignons. Ce sont des petites créatures aussi maladroites que peu intelligentes. Ils sont à la recherche de la créature la plus méprisable et la plus méchante pour la servir et suivre ses ordres. L'arrivée de l'homme leur donne un nouveau et maléfique maître à vénérer. Mais leur maladresse cause souvent de façon très rapide la perte des maléfiques personnages. Après avoir trouvé refuge dans le Grand Nord, les mignons sans chef dépriment. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux, Kevin, se propose d'aller à la recherche d'un nouveau maître, aidé par Stuart et Bob. Ils partent tous les trois à l'aventure et comment vous dire qu'ils vont mettre une sacrée pagaille.
Ça donne envie tout ça.
Je vous l'avais dit. Florian, envie de rigoler et de se détendre un peu ce soir ?
Eh bien écoutez, après les mignons, pourquoi pas ?
Eh bien je vous propose un bêtisier ce soir sur la 17 à 21h, c'est la chaîne C'est Star. Au programme, des festivités, des fous rires d'animateurs, des candidats de jeu dans tous leurs états, des chutes magistrales, des rires communicatifs, des problèmes techniques en pagaille pendant des directs télé ou encore des lapsus monumentaux, sans oublier les classiques, chien qui tombe, personne dans les attractions qui mange des pâtes.
Ah, personne dans les attractions qui mange des pâtes, c'est une bonne idée. Hein,
c'est des classiques.
Exactement.
De quoi bien rigoler. J'avais dit qu'on allait bien rigoler ce soir, Florian.
Et oui, Emmanuel. Et vous avez un coup de cœur pour ce soir ?
Eh bien, ce soir, en effet, j'ai un coup de cœur sur France 2.
À part manger des pâtes.
De Gaulle, histoire d'un géant. À 21h, ce film raconte Charles de Gaulle de sa naissance en 1890 à la tombe de Colombey, les deux églises en 1970. Il révèle la force visionnaire et le destin rectiligne d'un homme qui a changé le cours de l'histoire et qui continue à influencer nos vies à l'heure où tous les dirigeants politiques revendiquent une partie de son héritage. 50 ans après sa mort, il reste dans l'imaginaire collectif des Français comme l'homme providentiel. C'était ma sélection télé du jour, en vous souhaitant un très bon mardi à tous et à toutes.
Merci Manuel Hernandez, à demain pour un nouvel Jada Télé.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
L'essentiel de l'actualité, c'est avec Luc Vidal-Giraud dans l'Occitanie.
Bonjour à tous, c'est une première en Europe et on la doit aux équipes du SAMU 31, le SAMU de Haute-Garonne. Son équipe a installé hier à Bayonne un hôpital mobile pour prendre en charge les malades de la Covid-19. Transportable par un seul camion, le conteneur se transforme en moins d'une heure, en 40 minutes, en 5 box pouvant accueillir 18 patients graves en même temps ou 20 patients dans un état plus léger. Cet hôpital mobile est alimenté en eau, électricité et transporte tout le matériel médical nécessaire pour des situations d'urgence. Testé fin septembre dans le Comminges en tant que centre de dépistage, la conception de cette unité mobile polyvalente Europe-Occitanie a débuté il y a 3 ans. Le projet était destiné à répondre à des urgences sanitaires, des attentats ou encore des catastrophes naturelles. Cet hôpital mobile est un projet européen que le CHU de Toulouse a mené en partenariat avec le centre hospitalier de Navarre, le SAMU de Barcelone et le centre hospitalier Côte Basque de Bayonne. Sa construction a été confiée juste avant le premier confinement à l'industriel toulousain Cegelec Défense. L'entreprise envisage à terme de produire ce prototype d'hôpital mobile en série. Plusieurs syndicats d'enseignants appellent à la grève sanitaire aujourd'hui dans les écoles, les collèges et les lycées. En cause, le protocole sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus, considéré comme mal préparé, tardif ou flou. Deux des principaux syndicats de l'éducation nationale, le SGEN, CFDT et l'UNSA, n'ont pas rejoint cet appel. Le conseil départemental du Gers innove et vient de mettre en place un conseil départemental d'analyse et de vigilance Covid. Son objectif est de mettre en œuvre des solutions adaptées au département afin de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale qui découle de la pandémie. Son ambition est de permettre au département de répondre avec le maximum d'efficacité aux deux prérogatives majeures de la collectivité, à savoir la solidarité et la cohésion territoriale. Originalité du dispositif, 5 citoyens volontaires seront tirés au sort pour siéger dans ce conseil. Les inscriptions sont ouvertes et accessibles sur le site gers.fr. La prochaine séance de ce conseil est prévue mercredi 18 novembre prochain. Ce n'est pas une surprise, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé hier la suspension de l'arrêté municipal pris par la maire de Montauban, Brigitte Barège, C'était le 30 octobre dernier. Il autorisait la réouverture des commerces non alimentaires de la ville, et ce, contre la décision gouvernementale. La préfecture du Tarn-et-Garonne avait immédiatement saisi la justice, jugeant l'arrêté illégal et promettant des sanctions. Le tribunal rappelle que le Premier ministre, par pouvoir de police spéciale, peut par décret réglementer l'ouverture ou ordonner la fermeture d'établissements recevant du public en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. En clair, la maire de Montauban a ainsi pris une décision qui n'entrait pas dans le champ de ses pouvoirs de police générale. D'autres communes de la région Occitanie ont pris des arrêtés similaires, comme Groyer, Gaillac ou encore Mazamet. Changement de statut pour le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, il va devenir un sanctuaire national. La décision a été annoncée ce week-end lors de l'Assemblée plénière des évêques de France. Dans un entretien à la Dépêche du Midi, Mgr Antoine Héroir, le délégué apostolique du sanctuaire, explique que ce changement ne va concrètement rien changer pour le pèlerin. Par contre, la gouvernance, en revanche, va être modifiée. Il annonce la mise sur pied d'un conseil épiscopal d'orientation qui sera chargé de donner les grandes lignes de l'activité du sanctuaire. L'objectif est de mieux assurer l'équilibre de la direction du sanctuaire. Mgr Héroir se veut rassurant, faisant état de la peur de certains acteurs locaux de voir le sanctuaire échapper à Lourdes. On peut les rassurer, dit-il, on prend juste en considération que le sanctuaire ne concerne pas que les Lourdais, mais l'ensemble de l'Église de France. La gouvernance sera portée davantage au national tout en respectant la partie propre locale. Pour un changement de recteur, conclut-il, ils seront nommés par le conseil permanent de la conférence épiscopale sur proposition de l'évêque de Tarbes-et-Lourdes. Fin de citation. La Haute-Garonne, mauvais élève d'Occitanie en matière de tri sélectif. En 2019, chaque habitant de la région a trié en moyenne 71,6 kg d'emballages ménagers et de papier. Ce chiffre tombe à 60 kg en Haute-Garonne. Pour Citeo, ex-éco-emballage, ces chiffres ne sont guère étonnants dans la mesure où l'on sait que les chiffres sont moins bons dans les départements urbanisés. On trie deux fois moins bien en ville qu'à la campagne. Une amélioration de ces chiffres passe par la simplification du geste de tri et son élargissement, mais aussi par la modernisation des centres de tri. Autre piste explorée pour motiver les habitants à trier, la tarification incitative. En somme, plus vous triez, moins vous payez. Enfin, bonne nouvelle, le confinement n'a eu qu'un faible impact sur les habitudes de tri. Selon l'étude menée par Citeo, 78% des Français ont gardé leurs habitudes et près de 18% y font même beaucoup plus attention. Gros trou d'air pour le transport aérien à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il enregistre une baisse de fréquentation de 70% par rapport à l'an dernier. Au cours du troisième trimestre, 300 143 passagers ont emprunté les lignes entre Toulouse et Paris. C'est un recul de plus de 56%. À elle seule, la liaison Toulouse-Paris-Orly, fortement touchée par l'absence de la navette Air France durant la majeure partie de la période, enregistre elle un recul de 75%. Porté par contre par le tourisme local de la période estivale, le trafic en région affiche un moindre recul, moins 41%. Les trois destinations les moins impactées sont Ajaccio, Strasbourg et Nice. La circulation des trains est fortement perturbée depuis ce mardi matin entre Tarbes et Toulouse en raison d'une panne électrique en gare de Muret. La direction régionale de la SNCF annonce des retards et des suppressions de trains à prévoir. Un retour à la normale est prévu dans la journée.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour un nouveau point sur l'actualité en Occitanie.
La météo.
Pour cet après-midi, des éclaircies dans la plupart des départements. Là où il y aura de rares averses, ce sera dans le Lot et l'Aveyron. En moyenne, vous aurez 16 degrés. Demain matin, des gros nuages à côté de la cathédrale de Cahors et près de Montauban avec 10 degrés, 9 pour le Gers et 7 à l'aéroport de Tarbes-et-Lourdes. Pour l'après-midi, des rayons de soleil dans notre beau paysage d'Occitanie. 16 degrés dans le Lot à côté de la Cité de l'Espace à Toulouse et à Nougaro, 17 en Haute-Pyrénées.
Le tour des diocèses et nous allons pas très loin du pont Valentré, Isabelle Honnel.
Et attachez vos ceintures, nous partons ensemble ce matin dans le diocèse de Cahors. On va tout de suite y retrouver le père Luc Dangean qui est le délégué épiscopal à la communication. Bonjour père Luc.
Oui, bonjour Isabelle.
Alors, confinement ou pas, est-ce qu'il se passe des choses malgré tout dans votre diocèse, père ?
Bien, il y a le confinement, et dans ce confinement, il y a des choses qui essayent de se mettre en place. Alors, il y a beaucoup de paroisses qui essayent de s'organiser. Donc aujourd'hui, je pense que le confinement va durer sans doute un petit peu de temps. Donc je ne vais pas tout dire aujourd'hui, il y aura d'autres paroisses que j'évoquerai dans 10 jours. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous parler de deux paroisses, la paroisse de Gourdon et la paroisse de Figeac. qui ont pris alors, des jeunes qu'on appelle de la mission WEMS. Je pense que peut-être d'autres diocèses en ont déjà parlé, j'imagine.
La mission, vous dites
Alors WEMS, W-E-M-P-S, ça veut dire Week-end en mission prière service.
Ouais.
Une association de jeunes qui propose finalement à des paroisses rurales d'y envoyer des jeunes pour des week-ends en temps habituel, mais là, ça sera pour le confinement. Donc, ce sont des étudiants qui acceptent de venir quelques jours pour vivre avec le prêtre. Et alors, ils ont évidemment, il y a des conditions, c'est qu'ils doivent être logés, qu'ils puissent avoir une connexion Internet pour les vidéoconférences de leurs études quand ils sont étudiants. Et en même temps, ils sont nourris et logés, ils participent à la vie paroissiale ou pour des travaux. Voilà.
Alors, le temps d'un week-end.
Alors là, actuellement, c'est pour le confinement.
Pour le confinement, cette fois-ci, oui.
Ils l'ont appliqué au confinement. Donc, à Gourdon, il y a, je crois, 5 jeunes, je crois, ou 6. Je vous disais non, parce qu'on les a, c'est Quenaël, Malouine, Paul et Thomas. Ils sont là pour donc tout ce temps de confinement. Et donc, ils rencontrent, avec les conditions sanitaires, évidemment, des personnes. Et tous les soirs, sur le site de la paroisse, on peut avoir une vidéo qui rend compte un peu de ce qui est vécu, voilà, dans la paroisse.
C'est très chouette, hein.
De Gourdon. Alors, c'est un peu le même principe à la paroisse de Figeac. Là, il y a 6 jeunes, je crois. Alors, ils arrivent de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Rouen. Hein. Et là, donc, à Figeac, ils sont aussi logés dans les mêmes conditions. Et alors, la paroisse a entrepris depuis quelques mois des travaux. Hein. Ils réaménagent les bureaux et le secrétariat dans les salles paroissiales. Donc, les travaux sont faits par quelques-uns par des bénévoles. Et certains participent donc à ces travaux. Alors il y a une vie communautaire. Hein. Alors le programme de la semaine, c'est le ponçage, les travaux, les tâches ménagères, puis prière et vie fraternelle. Alors, une manière de vivre le confinement en restant en lien avec des jeunes et des prêtres. Alors, toutes les paroisses ne peuvent pas accueillir les jeunes, et tous les prêtres ne sont pas aptes aussi à vivre ce temps-là, mais quand c'est possible, ça peut se faire.
Eh ben, c'est une très belle manière de vivre ce confinement même. Et on félicite et on embrasse ces jeunes qui ont choisi de mettre ce temps a priori mort et perdu au service des paroisses rurales, au service probablement de personnes plus âgées. Un grand merci, Père Luc Dangean, de nous avoir fait découvrir cette belle initiative dont ça se passe dans le diocèse de Cahors. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée à tous.
Sur les chemins de Saint-Jacques. Une chronique proposée par Sébastien Pénary avec l'Agence des chemins de Compostelle.
Bonjour. L'Agence des chemins de Compostelle anime cette année encore le prix du patrimoine mondial. C'est la 5e édition de ce concours scolaire à destination des élèves des académies de Toulouse, Montpellier et de l'enseignement agricole. Symbole de rapprochement des peuples, la liste du patrimoine mondial porte l'ambition de favoriser la transmission et le partage d'un patrimoine universel qui transcende les frontières en se faisant vecteur d'un message de paix. À travers le prix du patrimoine mondial en Occitanie, ces biens du patrimoine mondial deviennent ainsi une source de réflexion et de création pour les élèves des écoles primaires, des collèges, des lycées de toute la région. L'Occitanie rassemble à elle seule 8 biens inscrits. Et la démarche du patrimoine mondial répond d'abord à l'idée de construire la paix entre les hommes. Ce concours s'inscrit dans le cadre des programmes d'éducation en histoire, géographie, littérature, enseignement artistique et technique. Les élèves, accompagnés de leurs enseignants, travailleront durant l'année à la réalisation d'un carnet de voyage réel, suite à une sortie de terrain, ou virtuel, à partir d'une découverte virtuelle appuyée sur des ressources numériques ou audiovisuelles. En 2019-2020, 32 classes étaient inscrites, 6 classes ont été lauréates. La classe de CM1 de l'école élémentaire de Montréal-Dode a par exemple fait un joli travail sur le canal du Midi, aidée par l'étude d'un livre et une visite sur le canal associée d'une rencontre avec des éclusiers. Leur production a pris la forme d'une mallette à trésors qui leur a permis de comprendre l'histoire et les aspects techniques de cette géniale invention de Pierre-Paul Riquet. À Albi, la classe BTS Tourisme a créé une visite guidée de type Escape Game sur un support numérique. Au départ de la collégiale Saint-Salvi, Le visiteur entame un parcours d'environ une heure pour découvrir la cité et résoudre le secret de l'arche mystère. Une question est posée à chaque étape pour pouvoir se rendre à la suivante. À Montbourguet, à Tarbes ou à Lavore et ailleurs en Occitanie, les élèves ont de leur côté travaillé sur le bien Pyrénéen perdu, le pont du Gard, l'Écosse et Cévennes, le réseau des sites Vauban, la ville fortifiée de Carcassonne ou encore les chemins de Saint-Jacques. Les possibilités de production sont ainsi multiples et doivent permettre aux élèves d'user de leur créativité. Courant mai, un jury se réunira afin de délibérer et de mettre en avant les productions qui sortiront du lot. Des travaux qui pourront faire l'objet d'une valorisation, par une exposition ou par un site internet dédié. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 décembre. Alors, que vous soyez enseignant, parent, grand-parent, bénévole dans des associations, proviseur ou principal, ou tout simplement que ce projet vous interpelle, n'hésitez pas à en parler autour de vous afin de mobiliser les jeunes et les enseignants. Toutes les informations sont sur le site www.chemin-compostelle.com ou sur le site des rectorats des académies de Montpellier et Toulouse.
Radio Présence aux portes du Tarn. 97.9.
Installé sur votre canapé avant de retourner au travail, fermez les yeux tout de suite Benabar avec La Berceuse, suivie de votre évangile.
Voilà plus d'une heure que je te tiens dans les bras. Voilà quelques jours que je suis tout à toi. Il est très tard et tu dors pas. Je t'ai fait une berceuse. La voilà. Demain, le jour sera là. Et les oiseaux chanteront leur joie. Des paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson. Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées viendront te réveiller.
Fais dodo.
Pourquoi tu dors pas? Demain il faut que je me lève tôt. J'ai un rendez-vous hyper important. Si t'aimes ton père, si tu l'aimes vraiment, sois fatigué et dors maintenant. J'ai sauté sur l'occasion, t'avalais ton biberon pour un micro-sommeil de 10 secondes environ. C'était confort, j'ai bien récupéré. Maintenant tu dors, t'arrêtes de nous faire chier.
Demain, le jour sera là, et les oiseaux chanteront leur joie. Tes paupières d'or s'ouvriront sur le soleil et sur sa chanson.
Ferme les yeux, c'est merveilleux. Et dans tes rêves, toutes les fées dors, dors, dors.
Bordel,
pourquoi tu dors pas? Dors, dors, dors.
Laisse dormir ton papa.
Ce que tu regardes en riant, que tu prends pour des parachutes, ce sont mes paupières, mon enfant. C'est dur d'être un adulte. Allez, on joue franc jeu, on met carte sur table. Si tu t'endors, je t'achète un portable, un troupeau de poneys, un bâton dynamite. J'ajoute un kangourou si tu t'endors tout de suite. Tes paupières sont lourdes, tu es en mon pouvoir. Une sensation de chaleur engourdit ton corps. Tu es bien, tu n'entends plus que ma voix. Je compte jusqu'à trois et tu vas t'endormir. Pourquoi tu veux pas dormir? Pourquoi tu dors pas? Je te donnerais bien un somnifère, mais y en a plus, demande à ta mère. T'es insomniaque ou quoi? Puisque tu me laisse pas le choix.
Voici le temps des menaces.
Si tu dors pas, je te place.
Dors, dors, dors.
Mais on dirait que ça marche. Tu fermes les yeux, tu es si sage. c'est merveilleux. Tu dors comme un ange, tu as de la chance. Moi aussi j'ai sommeil, mais c'est le matin. Il faut que je m'habille. Je me suis énervé, mon amour, je le regrette, pour me faire pardonner. Je vais te jouer un peu de trompette.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu.
La question de Jésus que nous venons d'entendre nous concerne personnellement. À chacune et chacun d'entre nous, il nous redemande, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? On en dit tellement sur Jésus, à tel point que me revient à la pensée son autre questionnement. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Autrement dit, en clair, lorsque le Christ viendra dans sa gloire pour juger le monde, trouvera-t-il la foi dans notre cœur ? Qu'est-ce que croire ou avoir la foi ? C'est accueillir Jésus comme Fils de Dieu, Dieu et Sauveur. Mais c'est aussi croire en sa parole, l'écouter, la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Souvenons-nous, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, que nous avons expulsé les démons, que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Cela nous invite à relire en saint Matthieu le chapitre 7. Contre le mal c'est rejeter Dieu, ne pas l'écouter, ne pas faire à sa volonté, ne pas l'aimer ou ne pas nous aimer les uns les autres. c'est-à-dire ne pas vivre en enfant de Dieu. Et puis Jésus institue Pierre, à qui il confie son Église, et par lui à ses successeurs, donc aujourd'hui pour nous le pape François. Leur autorité vient du Christ, lui seul, le rocher, la tête de l'Église. Mais il se donne un représentant sur la terre pour continuer à conduire son peuple. Et Jésus lui donne force et courage. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur mon Église. Avec Pierre et ses successeurs, le Christ envoie son Église dans le monde entier avec la force de l'Esprit-Saint promis. Vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, Jésus accompagne le choix de Pierre et de ses successeurs avec une autre faculté. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre, délié, sera délié dans les cieux. En cela, le Christ confirme une autre de ses paroles. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Sous-entendu, n'ayez pas peur, ceux qui m'ont fait, ils vous le feront. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Ainsi, par la voix du pape et de l'Église, c'est lui, le Christ, qui continue à nous guider, à nous parler, à nous enseigner et à conduire son peuple. Alors, nous redemande Jésus, pour vous, qui suis-je? Et avec la Vierge Marie, qui à Cana nous a dit tout ce qu'il vous dira, faites-le, sachant redire, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
À Toulouse, 97.9.
Dans 5 petites minutes, le rappel des titres de votre région avec Luc Vidal-Giraud juste avant pour continuer votre repas. Une très belle chanson de Patricia Cass, c'est son titre. Il me dit que je suis belle.
Et quand le temps se lasse de n'être que tu es, plus une seconde ne passe dans les vies. Don't
L'essentiel de l'actualité de votre région, c'est avec Luc Vidalgero en ce mardi 10 novembre.
C'est une première en Europe et on la doit aux équipes du SAMU 31, le SAMU de Haute-Garonne. Leur équipe a installé hier à Bayonne un hôpital mobile pour prendre en charge les malades de la Covid-19. Transportable par un seul camion, le conteneur se transforme en 40 minutes en 5 box, pouvant accueillir 18 patients graves en même temps ou 20 patients dans un état plus léger. Plusieurs syndicats d'enseignants appellent à la grève sanitaire aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées. En cause, le protocole sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus, considéré comme, je cite, « mal préparé, tardif ou flou ». Deux des principaux syndicats d'éducation nationale, le SGEN, CFDT et l'UNSA, n'ont pas rejoint cet appel. Le conseil départemental du Gers innove et vient de mettre en place un conseil départemental d'analyse et de vigilance Covid. Son objectif est de mettre en œuvre des solutions adaptées au département afin de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale qui découle de la pandémie. Originalité du dispositif, 5 citoyens volontaires seront tirés au sort pour siéger dans ce conseil. Le tribunal administratif de Toulouse prononce hier la suspension de l'arrêté municipal pris par la maire de Montauban, Brigitte Barège, le 30 octobre dernier, qui autorisait la réouverture des commerces non alimentaires de la ville et ce, contre la décision gouvernementale. Changement de statut pour le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, il va devenir un sanctuaire national. La décision a été annoncée ce week-end lors de l'Assemblée plénière des évêques de France. La Haute-Garonne, mauvais élève d'Occitanie en matière de tri sélectif. En 2019, chaque habitant de la région a trié en moyenne 71,6 kg d'emballages ménagers et de papier. Ce chiffre tombe à 60 kg en Haute-Garonne. Gros trou noir pour le transport aérien à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il enregistre une baisse de fréquentation de 70% par rapport à l'an dernier. À elle seule, la liaison Toulouse-Orly, fortement touchée par l'absence de la navette Air France durant la majeure partie de la période, enregistre un recul de 75%. Et puis la circulation des trains est fortement perturbée depuis ce mardi matin entre Tarbes et Toulouse en raison d'une panne électrique en gare de Muret. La direction régionale de la SNCF annonce des retards et des suppressions de trains à prévoir.
Un Un rapide coup d'œil sur votre météo pour cet après-midi. Des éclaircies dans la plupart des départements, là où il y aura de rares averses, ce sera dans le Lot et l'Aveyron. En moyenne, vous aurez 16 degrés. Demain matin, de gros nuages à côté de la cathédrale de Cahors et près de Montauban avec 10 degrés, 9 pour le Gers et 7 à l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Pour l'après-midi, des rayons de soleil dans notre beau paysage d'Occitanie, 16 degrés dans le Lot à côté de la Cité de l'Espace à Toulouse et à Nougaro 17 en Haute-Pyrénées. Je vous laisse avec Radio Vatican, votre journal international en direct de Rome. Et je vous dis pour ma part à demain midi.
Radio Présence à Sévrac-le-Château 102.3.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Radio Vatican.
Cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, Nagorno-Karabakh. L'accord obtenu hier soir sous l'égide de la Russie.